Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouvel éclairage, une chronique économique que nous allons aborder avec l'économiste président d'Asterès, Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Alors, nous allons parler d'un sujet qui commence à apparaître dans les préoccupations des économistes, l'inflation. Alors l'inflation, la question, impossible retour ou éternel recours ? La sortie de crise passe-t-elle par un retour de l'inflation ? Les positions des experts sont particulièrement tranchées. Dans le camp de l'impossible retour, on trouve le professeur Olivier Pastret de Paris 8 qui remarquait dans un débat récemment publié par les Échos, en sortie de crise comme avant la crise, la surcapacité de main-d'œuvre à l'échelle de la planète continuera à tirer les rémunérations du travail, donc les prix vers le bas. Et donc il ajoutait, le problème serait plutôt le risque de déflation qu'un retour prochain de l'inflation. L'inflation peut-être, mais dans quelques temps. D'un autre côté, dans le même débat, Pierre-Noël Giraud, qui lui est plutôt dans les camps des pour, faisait pour sa part observer qu'il faudrait de l'inflation pour pomper toutes les liquidités et aider les débiteurs à payer leurs dettes. Mais, ajoutait-il, avec pertinence, comment faire de l'inflation raisonnable ? Donc ce débat pose deux types de grandes questions sur lesquelles nous allons essayer, avec votre complicité, d'apporter des éléments de réponse. La première, c'est quels sont les risques attachés à l'inflation ? Qu'en est-il réellement de ces risques ? Quelle est la part des mythes ? Quelle est la part des réalités ? Et deuxièmement, peut-on échapper réellement à un retour de l'inflation ? Alors, première question, la théorie économique, on le sait, dit que le retour de l'inflation, l'arrivée de l'inflation, pointe le ralentissement du commerce international et l'euthanasie, dit-on, des rentiers et des créanciers. Alors, il en est de quoi pour vous, Nicolas Bouzou ?
Je pense que cette crise a été très particulière parce que pendant cette crise, on a eu un consensus de la politique économique, c'est-à-dire à la fois des gouvernements et des banquiers centraux, autour du thème. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est la déflation, c'est-à-dire finalement la conjugaison d'une baisse de la masse monétaire, c'est-à-dire d'un recul du crédit, de l'offre de crédit, ce que les économistes appellent un crédit crunch, qui lui-même entraînerait une baisse du niveau général des prix. C'est ce qu'a connu le Japon depuis la fin des années 80 et ce dont finalement ils ne sont jamais sortis. C'est-à-dire que la difficulté avec la déflation, c'est qu'on ne sait pas en sortir. On sait sortir de l'inflation, on ne sait pas sortir de la déflation. Donc je crois que tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'il faut mener des politiques économiques qui vont permettre d'éviter la déflation. Et quel type de politique économique mener pour éviter la déflation ? Mais c'est très simple, des politiques inflationnistes. Et c'est là encore ce qu'on a fait, notamment en matière monétaire. Alors comment ça se traduit dans les faits ? Eh bien, d'une part, les banques centrales mettent leur taux d'intérêt à un niveau qui est extrêmement bas, et puis surtout, elles réactivent des recettes du type la planche à billets. Alors bien entendu, ça n'est plus de la planche à billets comme dans les années 20, où on pouvait parler à proprement dit de planche à billets. C'est-à-dire qu'on imprimait des billets, puis on payait les fonctionnaires, les militaires avec. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. On crée de la monnaie scripturale, c'est-à-dire que les banques centrales créditent le compte courant de banques commerciales, de banques de second rang, et avec cet argent, les banques vont reprêter aux ménages, aux entreprises, etc. Donc on crée de la monnaie de cette façon. Alors, ça a permis d'éviter la déflation. Donc ça, c'est très bien, l'objectif a été atteint. On a eu un mouvement de baisse de l'inflation un petit peu partout dans le monde, mais pas de déflation, c'est-à-dire pas de baisse généralisée du niveau des prix. Mais bien entendu, mais on le savait au départ, il y a un coût à cette politique, parce qu'aucune politique économique n'est indolore. Le coût, c'est le risque d'inflation. Pas tout de suite, mais au moment de la reprise économique.
Alors les risques d'inflation, de façon classique, on va dire, et universitaire, c'est quoi ? Alors d'abord...
C'est deux choses. C'est d'une part l'augmentation des prix des biens et des services, c'est-à-dire...
Mais les conséquences de cette...
Les conséquences, si vous voulez, l'inflation, vous avez deux types de conséquences. Vous avez des conséquences que tout le monde voit et des conséquences qui sont beaucoup plus gênantes en réalité, comme toujours en économie, des conséquences que l'on voit moins. Ce que tout le monde voit, c'est le fait que ça prend du pouvoir d'achat, tout simplement. Si vous avez une inflation qui monte à 3 ou 4 ces prochaines années, alors que la progression des salaires reste à 2%, puisqu'on n'a plus d'indexation aujourd'hui, on aura une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. De la même façon, on a des pertes de profit pour certaines entreprises. on a des gains de profit pour d'autres, celles qui bénéficient de l'inflation. On a bien vu ces dernières années que les entreprises du secteur des matières premières, par exemple, bénéficiaient de l'inflation. Et à l'inverse, les entreprises du secteur du BTP, par exemple, qui consomment beaucoup de matières premières, en perdent. Mais l'inflation, elle a aussi un impact redistributif. C'est ça qui est le plus important. Et c'est très bien connu. On peut dire, pour faire vite, que l'inflation, elle bénéficie aux emprunteurs et elle pénalise les épargnants.
Et d'autre côté, puisqu'on est sur le... Mais on va y venir dans une deuxième partie. Elle aussi transfère un certain nombre de risques générationnels, puisqu'à ce moment-là, ce sont donc les emprunteurs et puis aussi les jeunes couches d'actifs qui se retrouvent plutôt en situation de retrouver des emplois que l'inflation permet de créer, on dit, de façon artificielle. Mais en tout cas...
Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée, puisque vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis, du débat que le cercle Turgot a tenu dans les Échos et auquel participait notamment Pierre-Noël Giraud. Et ce que dit Pierre-Noël Giraud, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est terrible en même temps. Pierre-Noël Giraud nous dit notre génération, c'est-à-dire la sienne, celle des baby-boomers finalement, a accumulé énormément de dettes publiques. On l'a bien vu pendant cette crise où les États ont continué de s'endetter. Cette dette publique, ce sera la génération des trentenaires aujourd'hui qui devra la rembourser. Et elle est tellement colossale finalement que seule la monnaie de singe, c'est-à-dire seule l'inflation, permettra de la rembourser. Et donc lui, son idée, c'est de dire finalement, la génération des trentenaires est finalement condamnée à l'inflation. Alors en même temps, ça me paraît relativement compliqué parce que vous avez eu raison de rappeler, Jean-Louis, j'y souscris complètement, le fait que l'inflation, elle bénéficie aux débiteurs, mais finalement, elle pénalise aussi les prêteurs, c'est-à-dire les épargnants. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez beaucoup de prêteurs. Vous avez un vieillissement de la population, c'est vrai chez nous, mais c'est vrai aussi dans les pays émergents. La Chine est un pays qui épargne beaucoup et qui n'a pas intérêt à l'inflation. Donc, on a ce conflit, si vous voulez, générationnel, qui va devenir de plus en plus important ces prochaines années.
Oui, ce qui permet de dire à ceux qui considèrent que l'inflation ne pourra pas revenir, qu'effectivement, il y a des éléments objectifs qui militent pour que, en tout cas, le risque d'hyperinflation est très très éloigné.
Alors, absolument, je pense qu'il est éloigné en effet, mais l'inflation, elle peut se nicher aussi dans les actifs financiers, par exemple.
Alors c'est les autres formes d'inflation et celles qui sont probablement les moins faciles à contrôler, tout cas du côté des autorités monétaires, puisque les actifs immobiliers, les valeurs mobilières, qui sont des sources d'inflation extrêmement fortes, on l'a vu dans les années précédentes et qui ont amorcé la crise, sont, elles, beaucoup plus difficilement contrôlables.
Absolument.
Alors, la question que je voulais vous poser, c'est le dernier point sur les risques effectifs de l'inflation, c'est qu'en théorie, l'inflation doit... ralentir considérablement les échanges commerciaux, puisque les risques sont d'autant augmentés. Et ça, par contre, c'est un risque qui est toujours, on va dire, avéré par le passé.
Absolument. Mais c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas voir l'inflation de façon trop positive. Alors, je sais bien que l'inflation est associée, finalement, je pense que dans notre inconscient, elle est associée aux 30 glorieuses, si on se réfère relativement récent, et donc à une période très stimulante en termes de croissance. Mais en réalité, on n'a jamais pu démontrer que l'inflation ait un impact positif sur la croissance. On est absolument certain que la déflation a un impact négatif, mais le fait que l'inflation ait un impact positif, rien ne le montre. Et donc, je crois, il n'existe pas de chiffre d'inflation optimale. Et là encore, comme le remarque Pierre-Noël Giraud, de toute façon, même si on arrivait à déterminer un chiffre d'inflation optimale, on ne saurait pas comment l'atteindre. On peut toujours aller très au-dessus ou très au-dessous. La politique économique n'est pas une science exacte. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, une inflation modérée, c'est très certainement le meilleur contexte dans lequel on puisse évoluer. Mais et c'est là où on voit que les choses sont très compliquées. Vous avez eu tout à fait raison de le rappeler, Jean-Louis. On peut avoir une inflation officielle à 2 ou 3%, mais une hyperinflation des obligations, des prix de matières premières, des prix de l'immobilier. Et en réalité, nous en sortons. Et c'est-à-dire que le plus probable, et moi l'analyse que j'en fais, c'est que de ce point de vue-là, le monde dans lequel nous allons rentrer est très similaire à celui duquel nous sortons et qui a créé la crise, comme vous l'avez rappelé. Et l'histoire, de ce point de vue-là, se répète. Et la politique économique que l'on mène aujourd'hui crée des problèmes de long terme. Mais je n'ai pas de solution à ce terrible dilemme.
Absolument. Et donc, la question qui vient naturellement ensuite, c'est sur le plan monétaire. On parle beaucoup des actions positives dans la crise des banques centrales, après avoir probablement eu des actions un peu moins positives en amont de la crise. Mais elles se sont, semble-t-il, concertées pour mettre en place des actions dites non conventionnelles. Autrement dit, ça veut dire, à terme, de remettre des liquidités sur le marché. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ce facteur, donc on va dire monétariste, est de nature à déjà faire considérer que le processus inflationniste, ne serait-ce que par les aspects monétaires, est déjà en place?
Oui, si, absolument. Mais je crois que les conditions de l'inflation, de ce point de vue-là, sont tout à fait en place. Et c'est l'idée que je défendais au début, qui consiste à dire, finalement, pour éviter la déflation, on va mettre en place des politiques inflationnistes, notamment par ces moyens de politique monétaire hétérodoxe. Donc ça, c'est tout à fait vrai. La question, c'est de savoir quand et où. Quand, c'est-à-dire, on sait y répondre, à peu près au moment de la reprise. Alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'on ne sait pas très exactement quand est-ce que la reprise aura lieu. Mais enfin, on peut s'attendre à ce qu'au moment de la reprise, on ait en effet une tension inflationniste assez nette. Cela dit, pour des raisons que j'ai évoquées, et notamment celles qu'évoque Olivier Pastret, avec lesquelles je suis d'accord, on a aujourd'hui un système de concurrence au niveau international, notamment par rapport aux pays émergents, qui fait que malgré tout, les coûts de production sont contenus. Et donc, on a une limite à l'inflation. C'est-à-dire que je ne pense qu'on n'ira plus à des taux d'inflation de 10-15%. Mais je pense, en revanche, qu'on peut aller vers des taux d'inflation de 4 ou de 5%. Et en revanche, cette inflation, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc ces liquidités dont vous avez parlé, cette masse monétaire, si elle ne peut pas aller vers les biens et les services, elle ira ailleurs, elle ira dans l'immobilier, elle ira dans les matières premières. Et pour corroborer tout à fait ce que vous dites, on a déjà un début d'inflation à nouveau sur les prix de matières premières. N'oubliez pas que le prix du baril de pétrole est passé en quelques semaines de $40 à $70.
D'accord. Alors ça, c'est un facteur objectif d'inflation par les coûts.
Absolument, hein, absolument. C'est ce qu'on avait connu ces dernières années. Et finalement, on y retrouve. Une fois la crise purgée et l'économie commence à être purgée, finalement, on retrouve ce cycle. Mais en réalité, ce type de cycle, inflation, désinflation, risque de déflation, on le connaît depuis le 19e siècle.
D'accord. Donc, en résumé, votre conclusion, si on veut arriver déjà à la conclusion, vous nous dites que le risque de l'hyperinflation est totalement éloigné.
Absolument.
Qu'on n'échappera pas à une inflation douce, on va dire.
Exactement.
Alors, dans le niveau est simplement qui est peut-être considéré comme une variable d'ajustement économie dynamique, et que néanmoins le risque qui est aussi devant nous, c'est le risque à la japonaise d'une déflation durable qui menace certainement l'Europe déjà.
Absolument, je crois que le risque principal, il reste là pour l'instant, c'est-à-dire que c'est quand même celui d'une déflation qui ferait durer la récession non pas 2 ou 3 ans, mais 15 ans. Donc il faut l'éviter, et j'aurais même tendance à dire, si je veux être un tout petit peu provocateur, finalement, il vaut mieux troquer un peu d'inflation future, on aura un peu d'inflation dans le futur, on ne sait pas très bien où elle sera, on n'en connaît pas très bien les conséquences, mais il vaut mieux prendre ce risque plutôt que prendre le risque de tomber aujourd'hui en déflation.
Donc l'inflation, un problème qui est devant nous, mais qui n'est pas à l'ordre du jour.
Mais qui est moins grave que la déflation.
Grave que la déflation.
Tout à fait.
En tout cas, merci encore,
merci
Nicolas
Bouzou.
Je rappelle, parce que je ne l'ai pas fait, que vous êtes président d'une société d'études et d'intervention.
Absolument.
Sur le plan économique Asterès, que vous êtes vice-président du Cercle Turbo, que vous êtes un chroniqueur, un auteur. Votre dernier livre a eu un succès considérable, le crack financier. Et que vous intervenez sur tous les médias qui sont de grande notoriété en France. En tout cas, merci encore
à
vous et bravo pour ces commentaires.